Merci d'avoir accueilli favorablement, Seigneur, notre louange et notre adoration. Tu as eu en effet une oreille attentive, Seigneur, à l'expression de nos cœurs, parce que tu es notre Père en Jésus-Christ, parce que, Seigneur, tu nous aimes, et c'est toi qui nous as attirés à toi ce matin, ô Dieu, pour que nous puissions être dans ta maison, Seigneur, à l'occasion de ce moment, de ce rendez-vous merveilleux et glorieux. Merci pour tout, aide-nous, Seigneur, à passer plus de temps avec toi, Seigneur, à nous attarder davantage, ô Dieu, en ta présence, car c'est lorsque nous sommes devant toi, lorsque nous sommes dans ta présence, Seigneur, alors, ô Dieu, nous assumons pleinement notre vocation, qui est donc celle d'être des sacrificateurs dans ton royaume. Merci pour tout, parle-nous maintenant, fais-nous du bien, Seigneur, que ta parole soit la bienvenue dans nos cœurs, qu'elle trouve dans chacun de nous, Seigneur, des bonnes dispositions d'esprit, de cœur, afin que, Seigneur, aussitôt qu'elle sera reçue par nous, eh bien que cette parole finisse par accomplir son œuvre dans chacun de nous, qu'elle produise un des effets pour ta gloire, qu'elle nous transforme, Seigneur, qu'elle nous communique ton caractère, que nous fasse ressembler à toi, car in fine, c'est le but que tu poursuis, Seigneur, dans nos vies, à chaque fois que tu nous parles. Oui, bénis également ton serviteur, ce n'est qu'un simple outil entre tes mains. Cependant, cet outil a besoin de toi, Seigneur, a besoin de ta grâce. Alors parle-nous, par lui, au travers de lui, au nom de Jésus. Amen. Et gloire à Dieu, alléluia. Nous sommes donc le 21 août. Et aujourd'hui, nous allons mettre de manière tout à fait momentanée un terme à notre série d'enseignements sur l'Église de Jésus-Christ, puisqu'après nous reviendrons, nous verrons comment le Seigneur nous dirigera. Donc, ça sera le 9e dimanche où nous parlons de l'Église, où nous essayons de répondre à cette interrogation, à ce questionnement, l'Église de Jésus, est-ce vraiment Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu, le lieu où Dieu se manifeste, le lieu où la parole de Dieu est prêchée, proclamée, les lieux dont la vie des gens repose non pas sur un prophète, non pas sur des spéculations d'ordre théologique ou autre, mais un lieu où la vie des gens repose sur la personne de Jésus, ou alors l'Église est-ce Bethaven, les lieux où le mal prospère, le lieu de mensonge, de tromperie, le lieu de néant, c'est la vacuité totale, parce que bon, cette tautologie, il n'y a rien, il n'y a pas de vie, et quand il n'y a pas la vie de Dieu, croyez-moi, puisque la nature, non seulement spirituelle, mais aussi la nature physique, a horreur du vide, eh bien, il faut absolument que ce vide soit comblé. S'il n'est pas comblé par le Seigneur, eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui viendra le combler. Gloire au Seigneur. Donc, Église de Jésus-Christ, Bethel ou Bethaven. Nous allons relire un passage et nous terminerons donc cette première série, cette première approche, avec ce passage que nous avons lu déjà durant cet enseignement, à savoir 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 15. 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 15, où l'apôtre s'adressant à Timothée lui dit ceci, Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, et il nous révèle ce qu'est la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et enfin, le deuxième passage, mais j'avais donné le texte, comment expliquer que ça n'apparaît pas? Ok, le deuxième passage, c'est dans deux chroniques. Les deux premiers versets, c'est donc Salomon qui parle lors de la construction. D'abord ici, on nous présente le contexte. Verset premier, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Moria, ou Morija, qui avait été indiqué à son père David, à l'endroit préparé par David sur l'aire d'Ornan, les Yébousiens. Il commença à bâtir le 2 du second mois de la quatrième année de son règne. Et verset 15, à partir du verset 15, il y a un problème. Il fit devant la maison, c'est pas possible. C'est le verset 15, s'il vous plaît. Hein? Pourtant, je n'ai pas écrit en chinois, ni en cyrillique. Hein? Il fit devant la maison deux colonnes de 35 coudées de hauteur, avec un chapiteau de 5 coudées sur leur sommet. Il fit des chaînettes comme celles qui étaient dans le sanctuaire, et les plaça sur le sommet des colonnes, et il fit 100 grenades qu'il mit dans les chaînettes. Je répète ces deux chroniques, chapitre 3. Et verset 17, il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Yahin ou Yakin, et celle de gauche Boaz. Amen. Gloire à Dieu. Deux colonnes que Salomon va donc faire bâtir devant le temple. Et ces deux colonnes portent deux noms. Et nous allons nous attarder sur ces noms qui avaient été donnés donc aux deux colonnes. La colonne de droite, Yahin, et la colonne de gauche, Boaz. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Je disais que depuis plusieurs dimanches, nous essayons de voir, et nous avons vu, que l'Église est appelée à être la maison de Dieu, le Bethel du Dieu vivant, l'Église locale, l'endroit où ceux qui se réclament du Christ, l'endroit où ses disciples se retrouvent, est appelé à être un lieu qui accueille la présence de Dieu, un lieu où le feu de l'Esprit brûle constamment, un lieu où la lumière du Christ brille puissamment, un lieu, mes amis, où les gens viennent avec les fardeaux, viennent avec toutes sortes de problèmes, repartent avec des solutions, car Dieu a solution à tout. Voyez-vous, un lieu, mes amis, qui manifeste, qui accueille et qui manifeste la gloire de Dieu. Mais malheureusement, pour diverses raisons et à cause de beaucoup, beaucoup de facteurs, cette Église, qui est appelée donc à être la maison du Dieu vivant, à être le Bethel, le véritable Bethel, la maison de Dieu, il arrive hélas, pour diverses raisons, que cette Église-là devienne un véritable Bethaven, un lieu où la vie de Dieu est absente, un lieu où les gens s'y rendent pour admirer un homme, pour mettre un homme, placer un homme sur un piédestal, et puis poser leur regard sur lui. Un lieu sur lui, un lieu où toutes les dérives, même sectaires, sont possibles, où toutes sortes de déviations hérétiques sont enseignées, sont promues, sont partagées avec beaucoup de passion, avec beaucoup de conviction. Oui, il y a possibilité, et nous avons examiné pendant plusieurs dimanches les différentes possibilités. D'où la nécessité, je voudrais vous rappeler, frères et sœurs, la nécessité pour chacun de nous de veiller sur l'Église, de veiller sur notre assemblée, le centre évangélique francophone, pour que ça soit toujours un lieu où à chaque fois que nous nous retrouvons, que Dieu soit présent parmi nous. Alléluia. Nous venons dans ce lieu pour écouter la parole. Nous venons dans ces lieux pour recevoir la parole de Dieu. Vous voyez? Donc c'est notre devoir. Car le danger, comme nous l'avons vu la fois dernière, peut venir de l'extérieur, de gens, de loups ravisseurs, de loups redoutables, de véritables hyènes des ténèbres, peuvent, mes amis, se travestir, se transformer en brebis. Et ces gens-là, comme nous l'avons vu, eh bien, vont amener la séduction dans l'Église. Ils vont enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, contribuant du coup à l'égarement, à la perdition des gens. Et donc nous devons veiller, car l'Église, comme nous venons de le lire, est appelée à être la maison de Dieu, oui, de par sa vocation, eh bien c'est un lieu qui accueille la présence de Dieu. Et par conséquent, c'est donc un lieu qui lui est destiné. C'est donc un lieu qui est mis en part pour lui. C'est un lieu qui accueille régulièrement la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans cette épître à Timothée, eh bien recourt à une comparaison architecturale dans laquelle, eh bien, l'Église nous est présentée comme une maison avec la colonne et l'appui. Une colonne et un appui. Vous voyez? Et donc, ces lieux, la maison de Dieu, nous est révélée comme étant la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Tout est dans ce passage. La colonne, l'appui de la vérité. Et gloire à Dieu. La colonne et l'appui, pas d'un homme. Or, aujourd'hui, vous trouverez des assemblées qui sont bâties sur des personnes. Vous avez des assemblées dans lesquelles c'est l'homme qui est à la manœuvre. C'est l'homme qui est au centre de tout. Tout tourne, tout orbite autour de l'homme. Mes amis, un des objectifs de cette série d'enseignements, c'est de vous réveiller. C'est de vous communiquer cet esprit critique pour que vous ne soyez pas vous n'agissiez pas comme des moutons de Panurge, des gens qui sont là, qui suivent comme ça à l'aveuglette. Ah oui, c'est un prophète. Ah oui, c'est une prophétesse. Ah oui, lui, quand on parle, eh bien, même la lune tremble. Je n'ai pas besoin que quelqu'un faire trembler la lune. Ce dont j'ai besoin, c'est que la personne me communique la vie de l'esprit. Ce dont j'ai besoin, c'est de recevoir un enseignement, eh bien, qui va me transformer et me faire ressembler à l'image de Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul dit à Timothée, eh bien, je t'écris ceci avec l'espoir de venir te voir. Je t'écris ceci parce que je veux que nous puissions te rendre visite, etc. Mais cependant, il peut y avoir des choses qui pourraient m'empêcher. Si donc je tarde à venir te voir, eh bien, tu dois savoir que dans l'Église, qui est la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité, il y a une certaine conduite à avoir. Que tu saches comment se conduire. Oh, alléluia. Comment se conduire? Quelle attitude avoir? Quel comportement avoir? Quelle conduite avoir lorsqu'on fait partie de la maison de Dieu, mes amis? Voilà pourquoi nous devons prêcher la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons l'enseigner. Car c'est elle seule, comme nous allons le voir, qui a cette capacité, qui a cette puissance, cette vertu de nous transformer en l'image de notre Maître. Alléluia. Vous tous qui les visages dévoilés, contemplez comme dans un miroir la gloire du Seigneur, vous êtes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit, le Seigneur. Alléluia. Nous sommes transformés, voyez-vous. Cette transformation est due au fait que nous recevons la parole, et la parole renouvelle notre intelligence. Et la parole donc restaure tout notre être. Soyez transformés, dira Paul au Romains chapitre 12. Soyez transformés, soyez transfigurés, soyez métamorphosés. Comment? En suivant tel ou tel autre rite, pas du tout. En allant, en courant après des prophéties, pas du tout. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, alléluia. La parole de Dieu a cette capacité-là, la vérité, a cette capacité de nous régénérer, de renouveler notre entendement, de nous communiquer la vie. Donc elle a la capacité de nous mettre sur le chemin qui conduit vers la gloire. Et le mensonge fait le travail inverse. Voyez-vous, quand nous nous reposons sur le mensonge, mes amis, quand notre vie repose sur la tromperie, sur une fausse prophétie, eh bien nous risquons un jour de le regretter. Voyez-vous, nous sommes appelés à croître. Et l'élément qui nous fait croître en Christ, c'est la parole et c'est la présence de Dieu. La conjugaison, l'association entre d'une part la présence de Dieu, eh bien, quand nous entrons, quand nous prions, etc., mais aussi l'obéissance à sa parole, a une grande implication en nous. Voyez-vous? Vous savez tous, je lisais un article, j'ai partagé ça à mon épouse. Je suis tombé sur un article scientifique, et là j'ai été frappé, et j'ai vu tout à fait l'analogie, la comparaison, un parallèle avec ce qui se passe sur la vie spirituelle. Il y a dans la nature des guêpes, vous connaissez les guêpes, hein? Et il y a des guêpes parasitoïdes qui communiquent des parasites. Eh bien, il y a aussi dans la nature des chenilles, hein? Vous en connaissez. Et vous savez tous que les papillons commencent d'abord par être de chenilles. Vous connaissez ça? Vous savez ça? Voilà. Donc il y a une métamorphose qui se passe quand vous avez une chenille comme la chenille arpenteuse, je crois, qui quand elle marche, c'est comme un caterpillar. Hein, souvent, c'est des chenilles vertes comme ça. Eh bien, au bout de quelques temps, après un certain temps, cette chenille-là devient papillon. Mais cependant, il y a un type de guêpe qui a cette manie terrible d'aller pondre leurs œufs dans des chenilles. Et j'ai vu une chenille qui a eu le malheur d'être piquée par cette guêpe. La guêpe a déposé, mes amis, ses larves dans la chenille. Et la pauvre chenille va donc jouer le rôle de couveuse, malgré elle. Voilà. Et ses larves vont se développer sur le corps de la chenille, et de ces larves, plus tard, sortiront de nouvelles guêpes. Mais la conséquence la plus terrible concernant cette pauvre chenille qui va jouer le rôle de mère porteuse sans l'avoir voulu, c'est qu'elle va rester, elle va être condamnée à demeurer chenille et ne jamais devenir un jour papillon à cause de ces parasites déposés par cette guêpe. Et ça m'a fait tilt, je dis en effet. Voyez-vous, l'ennemi arrive à poser sa pensée en nous et à nous transformer en zombies moraux. Ah oui, voilà. À nous transformer, au lieu d'aspirer vers le haut, d'atteindre, de vivre, d'expérimenter notre vocation, eh bien nous continuons à être des simples chenilles, c'est-à-dire des simples êtres terrestres. Alors que la présence de Christ en nous nous appelle à être des papillons spirituels. Alléluia. Gloire à Dieu. Être transformé, être métamorphosé par la pensée de Christ. Vous comprenez pourquoi David, dans le psaume 51, ça sont des passages que je n'ai pas donnés, psaume 51, il dit: tu prends plaisir, il s'adresse à Dieu. C'était après son terrible péché, sa chute. Il dit: Seigneur, purifie-moi, etc. Vous connaissez le psaume 51. À un moment, il dit, je crois que c'est au verset 8, tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Oh, alléluia. Voilà. Tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus profond de moi-même, fais-moi connaître. Tu prends plaisir à la vérité dans le cœur. Voyez-vous? Eh bien, le contraire peut se passer. Il y a une version qui est traduite: mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Vous comprenez pourquoi la maison de Dieu, l'Église, est la colonne et l'appui de la vérité. Car le Seigneur voudrait que nous soyons constamment en contact avec la vérité de sa parole. C'est la vérité qui transforme. C'est la vérité qui nous change. Alors ne courez pas après telle ou telle autre prophétie. Si la prophétie vient de Dieu, eh bien, elle va contribuer à votre croissance. Mais cependant, si c'est une manipulation, eh bien, même si elle aura l'apparence d'une parole biblique, même si elle aura commencé par « Ainsi parle l'Éternel, Dieu m'est dit ». Si vous croyez, mes amis, c'est que vous acceptez un mensonge, et ce mensonge va aller dans le fond de votre cœur, et va donc vous transformer avec le temps en zombie. Ce que Dieu veut, c'est la vérité de la parole. Tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur, alléluia. Tu veux que la vérité puisse habiter mon cœur. Eh bien, où les gens trouveront-ils la vérité? Je l'ai trouvé ici, par et au travers d'un homme de Dieu qui prêchait la vérité. J'avais toutes sortes de convictions philosophiques. Je lisais beaucoup, je m'intéressais à l'ésotérisme. Je voulais savoir c'est quoi la Rose-Croix à Morque, c'est quoi la franc-maçonnerie, c'est quoi toutes ces expériences de perception extrasensorielle. Je lisais tout ça, à un moment je me suis retrouvé dans une jungle complètement plongée dans le noir. Et quand vous êtes dans le noir, vous ne savez plus où aller. Voilà. Donc, toutes ces lectures-là m'avaient, quelque part, avaient pollué mes pensées. Mais en venant ici, et en étant confronté régulièrement à la parole de Dieu, cette parole a fini par accomplir ses effets bénéfiques. Alléluia! Par me débarrasser des effets toxiques de toutes ces lectures. Vous voyez, la parole de Dieu. Lisez-la, méditez-la. En début de chaque année, nous vous donnons la possibilité d'avoir un plan de lecture, mais aussi de méditation, qui vous permette de terminer toute la Bible en une année. Maintenant, si vous ne pouvez pas suivre le rythme, parce qu'il y en a qui le font en 2 ans, donc, vous lisez la Bible en 2 ans, peu importe. Mais ce que nous voulons, c'est que vous soyez constamment en contact avec la pensée de l'Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que tu saches comment se conduire dans la maison de Dieu, dans l'Église, la maison du Dieu vivant. Voyez. Donc, il y a une conduite à avoir. Et ça doit être une conduite, mes amis, induite par la vérité. Ça doit être une conduite qui soit le résultat de la présence de la vérité au fond de notre cœur. Quand la vérité est prêchée, eh bien, nous pouvons alors espérer à un changement, à une transformation, à une métamorphose. Nous pouvons alors nous attendre, mes amis, à expérimenter de grandes choses. Dieu est à l'œuvre lorsque la vérité de la parole est prêchée. Alléluia. Dieu est à l'œuvre lorsque nous ouvrons notre cœur à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut toujours faire preuve de discernement. On vous apporte un message, tant mieux, voyez-vous. Ne sautez pas tout de suite sur le message, parce que dans ce message, parce que le contenu est un contenu qui t'est agréable, ou même quelque part un contenu qui rencontre tes aspirations, ou une aspiration. Tu as toujours été, enfin, tu as toujours voulu être quelqu'un qui soit vu, qui soit admiré, etc. Et puis voilà, on t'envoie une prophétie comme une flèche. Dieu va t'élever. Mais on joue là-dessus, ça veut dire quoi, Dieu va t'élever? Posez la question à la personne qui vous apporte la prophétie, hein. J'ai vu, Dieu te destine à l'élévation. Posez la question à la personne. De quoi parles-tu? C'est vague, hein. Oui ou non? Si c'est dans la société pour être vu, pour tutoyer le sommet dans la société, être vu et tout ça, mais vous n'avez pas toujours besoin de Dieu pour arriver à atteindre ces niveaux-là. Autour de vous, ceux qui ont des comptes bien garnis dans nos banques, ce ne sont pas les chrétiens, hein, les vrais chrétiens. Vous voyez? Non, pas du tout, hein. Les finances sont détenues par des individus qui n'ont rien à cirer avec Dieu. Et pourtant, ces gens ont tout, hein. Ils provoquent des crises financières, et puis ils s'engraissent sur le dos des pauvres épargnants. Voyez. Réfléchissez. N'acclamez pas tout de suite, « Oh, gloire à Dieu, Dieu m'a parlé, etc. » Faites une sorte de distanciation, hein, par rapport à ce que vous avez reçu. Est-ce que c'est vraiment conforme à la volonté de Dieu? Car il y a des gens qui sont entrés dans le ministère simplement parce que quelqu'un leur avait apporté une prophétie. Et plus tard, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont jamais été appelés. Si Dieu ne t'a pas appelé, eh bien, mon ami, Dieu est juste. Il ne va pas à un certain moment, oh pauvre gars, regarde comment il se débrouille, oh là là, il y a un petit malheureux, et tout ça. Bon, je vais aller à l'encontre de ma personne.
Non.
Il va te parler et dire, non, je ne t'ai jamais appelé. Reviens à la maison, tu sauras c'est en quoi je t'ai appelé. Tu as été appelé à être diacre. Contente-toi d'être diacre. Même si tu prêches, très bien, gloire à Dieu. Nous avons besoin, nous avons toujours eu des diacres dans cette église qui ont toujours prêché la parole avec puissance. Mais ce n'est pas parce que tu parles avec beaucoup d'aisance, tu prêches très bien, qu'alors tu tirerais la conclusion que Dieu t'a appelé. C'est ça le problème aujourd'hui. Voilà. Vous pouvez aller à l'école biblique simplement pour enrichir votre connaissance en Bible. Mais oui. Et c'est tout. Ça vous permet de comprendre certaines doctrines fondamentales de la parole de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'au sortir de l'école biblique ou de la faculté de théologie, Dieu aurait changé de plan. Il t'aurait vu sortant avec un diplôme, il dit, mais que vois-je? Ah, il a un diplôme, un petit, viens. Allez, viens, je vais t'envoyer à Kenge. Non, pas du tout. Contentez-vous, mes amis, de l'appel de Dieu, et vous serez une grande bénédiction pour le monde. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Mais tout le monde est appelé à contribuer à l'avancement du règne de Dieu. Alléluia. Il y en a à qui Dieu a donné les moyens matériels pour soutenir l'œuvre. C'est tout. Pour peu que Dieu vous utilise, c'est fini. Vous devenez maman prophétesse. Voilà. Et désormais, vous commencez à distribuer les prophéties. Vous ouvrez un banque contact prophétique. Où vous donnez des cartes aux gens et dites, non, allez, va chercher la prophétie. Non. Vous faites du tort aux brebis du Seigneur. Vous faites du mal à l'Église. Si Dieu doit t'appeler, eh bien, il te fera lever en son temps. Dieu ne se précipite pas. Voyez-vous, il y a des gens, oh Dieu m'a appelé, je dois tout abandonner, partir. Eh bien, ils vous donnent l'impression que si eux ne partent pas, eh bien, personne ne prêcherait. Non! Quand Élie s'était plaint, oh Seigneur, tu vois, j'ai combattu contre les prophètes des Baal et des Astartés, mais tu vois cette terrible Jézabel, et son mari apostat Acab a tué tout le monde, tu restes le seul. Dieu lui dit, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Je me suis réservé. Donc.
Personne n'est indispensable. On a tué les Pierre, on a tué les Paul, on a tué tant de chrétiens. Ils sont partis, les persécuteurs, ces criminels, des chrétiens pensaient qu'ils allaient mettre un terme au royaume de Dieu. 2000 ans plus tard, nous sommes là. J'agirai. Ésaïe 43. Qui s'y opposera? Il agit, nous allons passer, d'autres vont se lever. C'est pourquoi je disais à un pasteur, je ne sais pas qui, je lui dis quand je vois tout ce jeune. Les jeunes, vous êtes là? Ah,
non, j'ai l'impression qu'il n'y a que de vieux ici.
Est-ce qu'il y a des jeunes ce matin?
Oui.
Est-ce qu'il y a des jeunes?
Oui.
Nous sommes là? Si vous êtes vieux, nous sommes des jeunes, oui ou non?
Oui.
Et alors? On a dansé ici, non? Voilà. Je dis quand je vois la présence de beaucoup de jeunes, ça me rassure. Ça veut dire que l'œuvre avance. C'est pourquoi il ne faut pas attendre que quelqu'un ait 40 ans pour commencer à lui donner l'occasion de chanter à la chorale. Non. Même à l'école maternelle, plutôt à l'école de dimanche, nous avons des jeunes gens et des jeunes filles qui chantent très bien. Donc vous voyez, mes amis, nous devons faire très attention. C'est la vérité qui seule est habilitée à nous transformer. Tu trouves du plaisir à ce que la vérité soit au fond de mon cœur. Voilà pourquoi la maison de Dieu, l'Église, est appelée la colonne et l'appui de la... Alors, quel rapport avec le Dieu colonne de Salomon? Eh bien, il y a là, mes amis, un grand enseignement. Salomon a fait construire deux colonnes.
dans les détails, enfin nous avons lu leurs dimensions, etc. Mais c'est surtout les noms qui ont été donnés à ces colonnes qui sont intéressants. Il a appelé la colonne de droite Yafin ou Yakin. Eh bien, ce mot signifie il a fermé, c'est donc Dieu, Adonai a fermé, ou Yahvé a fermé. C'est ça Yakin. Hein? Il a fermé. Entre parenthèses, Yahvé, Adonai, le Seigneur, l'Éternel a fermé. Il renferme. La deuxième colonne, la colonne de gauche, est appelée Boaz. En hébreu, en lui la force. Oh, alléluia. En Dieu, en l'Éternel, la force. Yakin, eh bien, celui qui a fermé, on peut même présenter ça dans un mot de justice, enfin pour ceux qui ont fait un peu de philologie, c'est-à-dire que Yahvé a fermé. Ou il a fermé. Ou en lui est la force. Il était donc important que les gens sachent que si ce temple devait rester le lieu de la rencontre avec Dieu, si ce temple devait rester un lieu de bénédiction pour le peuple d'Israël, il était important qu'il sache une chose, que c'est Dieu, Dieu seul qui a fermé. Avec tout ce que cela implique, c'est aussi le seul en qui il y a la force. Et donc, quand ils arrivaient, les deux colonnes parlaient. Il a fermé, il renferme. Voyez-vous? Et de l'autre côté, en lui, la force. Ce qui faisait la force de ce temple, ce n'était pas tant son architecture. Il faut savoir que le temple de Salomon, c'était un bijou, une merveille. Vous voyez? Ça trônait là sur le mont Sion, le mont Morija. Et là, on voyait avec la façade d'entrée tournée vers vers le mont des Oliviers, vers l'est, là où s'élève le soleil. Je vous avais dit, l'hébreu s'oriente toujours par rapport au soleil, au lever du soleil. Voilà. Et donc, il s'oriente à partir, le soleil se lève de là, donc je me tiens, je regarde. Puisque le soleil se lève à l'est, ça veut dire derrière moi c'est quoi? C'est l'ouest. C'est comme ça que la Méditerranée, en hébreu, plutôt l'ouest, est appelée en hébreu la mer. C'est-à-dire c'est la grande mer. C'est là donc, il regarde vers l'est, et à gauche, c'est... Non. C'est le sud, le nord. Hein? Le sud. L'est, c'est là. Le nord vers la gauche et puis le sud, voilà. C'est comme ça, quand vous lisez certains textes de l'Ancien Testament, il parle à droite, de droite, de gauche, pour parler des points cardinaux. Et donc, et là, quand ils venaient, ils étaient interpellés par les deux noms pour qu'ils sachent que ce qui faisait la force de ce temple là ce n'était pas tant son architecture. Ce n'est pas parce que ça a été construit par un des grands rois, un roi sage d'Israël, Salomon. Mais ce qui faisait la force de ce temple, c'était le Seigneur. En lui la force, et lui la fermé. Et donc ils avaient tout intérêt. Mais avec le temps, ils vont oublier. Ils vont croire que ça suffisait, on pouvait mener sa vie, vaille que vaille, vivre comme on le voulait. Et puis simplement, le jour du Shabbat... Le samedi, aller au temple de Salomon, aller donner ceci et cela, et plus tard, vous savez tous, le sort qui va être réservé à ce temple, il va être détruit, voyez-vous, par les Babyloniens, Nebuchadnezzar, à plusieurs reprises, et puis va amener le peuple en déportation. C'est Dieu, c'est en lui que nous avons la force, celui qui a fermé, oh, alléluia. Donc, Yakin et Boaz, que Yahvé
où Yahvé rend stable, c'est ça affermir. Les gens viennent ici, rencontrent Dieu, et Dieu les affermit, oh alléluia. Dieu affermit par sa parole, il nous rend ferme, nous restons solides dans notre foi, nous restons solides dans notre marche. Le vent, les tempêtes viennent, mais n'arrivent pas placées. Pourquoi? Parce que nous sommes fermes, parce que lui, la pierre angulaire, eh bien, est en nous, oh alléluia. Et si nous pouvons avancer, Boaz, en lui est la force. Et l'Église de Dieu doit le savoir, qu'elle est appelée à être la colonne et l'appui de la vérité. Donc, par rapport à l'Église, eh bien, à l'instar de ces deux colonnes du Temple de Jérusalem à l'époque de Salomon, l'Église, mes amis, du Dieu vivant, ne peut être la colonne et l'appui de la vérité que dans la mesure, premièrement, où elle repose sur la personne et sur l'œuvre de Jésus. Jésus qui a dit, je suis la vérité. C'est lui, pas un homme. C'est lui et pas une idéologie, quelle qu'elle soit. Et pas une doctrine, quelle qu'elle soit. C'est lui, Jésus, qui est la fondation, oh alléluia, qui est le fondement. Eh bien, l'Église ne peut pas être la colonne et l'appui de la vérité si elle ne repose pas sur la vérité. Et la vérité est une personne. Et la vérité se révèle dans la parole de Dieu comme étant une personne. Et cette personne, c'est celle qui a dit et qui nous le rappelle encore aujourd'hui, « Je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin. » Celui-là, c'est Jésus de Nazareth. Donc, notre assemblée, pour être la maison de Dieu, doit reposer en tout et pour tout sur la personne de Jésus-Christ et sur l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha. Quand on parle de Jésus comme agneau de Dieu, eh bien, on parle indirectement de l'œuvre accomplie à la croix pour nous racheter de la vaine manière de vivre inspirée par le péché, le prix qu'il a payé, mes amis, pour que de nouveau le ciel soit ouvert. Le ciel qui avait été fermé à cause de la désobéissance de nos ancêtres Adam et Ève. Mais avec la venue du Christ, avec sa mort en croix, avec sa résurrection d'entre les morts, eh bien, de nouveau, le ciel est ouvert. Et la vie de Dieu peut être expérimentée par n'importe qui. Pour autant qu'il croit en Jésus-Christ, alléluia. C'est ainsi que je vous avais dit, et j'aimerais que vous le découvriez par vous-même, le titre le plus répété concernant Jésus dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Révélation, c'est le titre d'agneau de Dieu. Il est vrai, il se présente, il se révèle comme étant l'alpha, l'oméga, celui qui était mort, qui est revenu à la vie, celui qui détient les clés de la mort et de ce jour des morts. Il est assis sur un cheval blanc, le cavalier du cheval blanc, qui entraîne à sa suite toute l'armée d'en haut. Pardon. Tant de révélations sur Jésus. Mais le titre d'agneau de Dieu est le titre le plus répété dans le livre de l'Apocalypse. Et quand on parle de l'agneau de Dieu assis sur le trône, on parle de ce Jésus mort. Car il y en a qui essayent de bypasser, de contourner la mort de Jésus. Il y a des religions qui s'époumonnent, et ce, pour la mort de leurs partisans, et qui affirment que Jésus n'est jamais mort. Mes amis, nous sommes sauvés par la mort de Jésus. Ne l'oubliez jamais. La mort du Christ, le sang qui a versé à la croix, sa résurrection d'entre les morts, voilà ce qui est à la base de notre salut. Alléluia. Donc voilà la première chose. Pour être une assemblée, très rapidement, être la colonne et l'appui de la vérité, il faut que l'Assemblée repose entièrement sur le Christ et sur l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Alléluia. Nous le voyons d'ailleurs très rapidement, nos amis vont nous afficher Éphésiens 2,
versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. On s'adresse aux disciples, à ceux qui sont en Grèce. Mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille.
Quelle grâce!
Peut-être vous avez toujours souhaité faire partie de la famille de telle, une grande famille congolaise. Vous avez toujours souhaité, peut-être quand vous lisez les histoires des familles royales en Europe, oh là là, j'aurais aimé naître dans telle famille, appartenir dans telle famille richissime et tout ça. Je vais vous dire une chose. Le monde a connu des grands hommes. Et les gens appartenus à toutes ces grandes familles, ces grandes dynasties, se sont frappés la poitrine, mais tous sont passés. Un seul reste et demeure. Et quand vous appartenez à la famille de Dieu, eh bien, vous appartenez à la plus merveilleuse, à la plus glorieuse, à la plus agréable, à la plus extraordinaire de toutes les familles qu'il y a sur terre. Alors ne faites pas de la peine au Seigneur quand vous n'êtes pas satisfait de votre appartenance à la famille de Dieu. Quand vous continuez à envier ceux du monde, oh là 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 là. Oh, regardez la famille de ce premier ministre. Ah, je vois ses filles. Ah, j'aurais aimé la... Non! Tu es une fille du roi des rois. Tu appartiens à la plus belle, à la plus merveilleuse, à la plus extraordinaire, à la plus singulière famille qui soit sur cette terre. Et ce qui est formidable, alors que les autres familles, eh bien, sont appelées à disparaître ad vitam aeternam, toi, ta famille est éternelle. Oh, alléluia. Et les gens avec qui tu partages cette famille, tes frères et sœurs en Christ, sont éternels. Vous vous reverrez là-haut. Alors que ceux qui seront là de l'autre côté, là, c'est l'obscurité totale. Hein. Je ne sais pas s'ils vont se reconnaître. Hein. Parce que c'est Dieu qui est la lumière. Voilà. Ils vont, peut-être qu'ils se marchent sur les ailes. Petit, non, vieux, il n'y a pas de petit ici. Voilà. Nous sommes tous dans le même... Donc vous voyez, mes amis, soyons fiers de notre identité. N'envions pas les gens du monde. Ça serait attrister le Saint-Esprit qui habite en nous. Ça serait dire au Seigneur, mais Seigneur, c'est vrai, mais moi c'est là. Imaginez-vous un peu l'attitude du Seigneur à chaque fois que de telles pensées traversent notre esprit. Quand nous envions les autres. C'est comme si nous lui disions, Seigneur, ce n'est pas assez, tu n'as pas assez fait. Voilà, ça lui fait du mal. Donc, reposez sur la personne de Jésus. Et puis nous continuons, vite, rapidement. Le texte d'Éphésiens 2. Et puis ensuite, donc le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle ou la pierre angulaire. Et puis continue, en lui, en Jésus, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et le verset 22, en lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en gloire à Dieu. C'est en lui et en lui seul. En lui seul. Ne cherchez pas, il y en a qui se battent pour que tout le monde sache, accepte que leur prophète, c'est le dernier des prophètes. Que le message de leur prophète, c'est le seul message. Non, vous gaspillez votre énergie pour rien. Voyez-vous, Dieu ne me jugera pas parce que je n'aurais pas cru que tel a été prophète ou pas. Non. D'ailleurs, Dieu même me dira, non, tu as été plus sage. Parce qu'après tout, prophète ou pas prophète, c'est moi qui suis le plus important. Amen. Alléluia. C'est lui que je veux. Puisque les prophètes sont appelés par qui? Par lui. Les apôtres sont appelés par qui? Par lui. Les pasteurs sont appelés par qui? Par lui. Les évangélistes sont appelés par qui? Alors je m'intéresse à lui. Deuxièmement, pour que l'Église soit vraiment la colonne et l'appui de la vérité, Non seulement il doit reposer entièrement sur le Christ qui est là, sa fondation, etc. Il faut que l'Église se laisse affermir en tout et pour tout par le Seigneur. C'est ça la colonne Yakin. Hein? En lui, celui qui affermit. Ne cherchez pas l'affermissement en dehors. Vous comprenez pourquoi dans Acte 20, le passage que nous avons lu la fois dernière au verset 32, quand Paul termine cette mise en garde prophétique aux anciens d'Éphèse, qu'il avait fait venir à Milet alors qu'il était en route vers Jérusalem, qu'est-ce qu'il leur a dit? Regardez sa prière, regardez son aspiration, regardez mes amis son appel, regardez son désir. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous les saints qui sont sanctifiés, parmi tous ceux qui sont sanctifiés. C'est donc, il confie l'Église d'Éphèse, les responsables d'Éphèse, il les confie à Dieu et à sa parole, qui a la capacité, qui a la puissance, qui a la vertu d'édifier, de les affermir, oh alléluia, de leur communiquer la force, Yakin Boaz. Voilà, en lui et en lui seul. La parole, c'est la parole qui nous affermit. C'est la parole qui suscite la foi en nous. Selon qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. La foi affermit, plutôt, la parole suscite la foi. La parole nourrit la foi. La parole, eh bien, affermit la foi. Alors que le mensonge fait le travail contraire. Le mensonge liquéfie la foi. Ça devient quelque chose de liquide. Alors que la parole renforce la foi. Mais le mensonge, les fausses prophéties, les fausses visions, des faux enseignements, tout cela, mes amis, liquéfie notre foi. Et cela pour notre malheur. Tout cela souille notre cœur et le transforme en de la gélatine. Vous connaissez la gélatine, hein? Quand vous prenez la gélatine, ça colle. Et il y a des cœurs comme ça. Mais c'est la parole de Dieu qui a fermé notre cœur, qui nous rend fort dans nos convictions, qui nous amène à parler avec assurance, avec conviction, alléluia. Voilà. Donc, l'Église est la colonne, l'appui de la vérité, dans la mesure, mes amis, où elle se laisse affermir par le Seigneur. Et le Seigneur a fermé son Église au moyen de sa parole, mais aussi au moyen de sa présence. C'est pourquoi ici, dès le départ, le pasteur avait instauré ce système d'avoir les enseignements bibliques le mercredi, et puis ensuite le vendredi, de faire le jeûne et la prière. Et ces deux éléments fondamentaux ont contribué à la croissance, aussi bien numérique que qualitative, de cette Église. Voyez ? La parole, c'est elle qui a fermé enfin, la parole ne peut être, plutôt l'Église ne peut être la colonne et l'appui de la vérité que dans la mesure où elle trouve sa force en Jésus, Boaz. En lui se trouve la force, alléluia. C'est lui, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, les autres sur leurs richesses, sur leur intelligence, mais nous, nous nous appuyons sur lui. Eux, ils tombent, ils finissent par tomber, eux, ils finissent par baisser les bras, ils finissent par mordre la poussière, mais nous, nous tenons bon, nous restons fermes, car notre force se trouve en lui. Venez chercher la force et vous la trouverez en lui. Alors, que cette Église, dans cette Église, nous ayons ces deux colonnes, Yakin et Boaz. En Jésus, nous sommes affermis. En Jésus, nous avons la force, alléluia, avec tout ce que cela implique. Voilà, mes amis, ce que j'avais à dire pour clore, dans un premier temps, ce premier livre composé de 9 chapitres sur l'église de Jésus, Bethel ou
Bethel.
Donc nous terminons là et nous reviendrons et nous voulons rendre grâce à Dieu. Merci. Merci en tout cas d'avoir prié pour cette série d'enseignements. Nous y reviendrons. Et là, nous allons parler, puisque c'est la colonne et l'appui de la vérité, puisque c'est lui la vérité, eh bien, l'ennemi va tout faire pour amener la séduction et égarer les gens. Il va susciter, il va envoyer certains de ses esprits, voyez-vous, et nous allons voir quelques esprits, hélas, comme Jézabel, comment ces esprits font des travaux de destruction, d'intoxication de l'Église. Vous voyez, des églises qui avaient bien commencé, mais malheureusement un jour les responsables n'ont pas veillé, eh bien, l'esprit de Jézabel s'est levé, a séduit les responsables, a séduit toute l'Église, et l'Église, finit par devenir Bethaven. Cette Église autrefois où la vie de Dieu était là, désormais quand les gens y vont, c'est simplement la musique qui les attire. Et comme chez nous, nous aimons beaucoup la musique et tout ça, et c'est tout. On va là-bas, on danse un tout petit peu, et puis on repart, encore pire qu'on y était avant d'y aller. Donc voilà, que Dieu soit béni, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour nous avoir aidés, nous avoir assistés dans cette série d'enseignements. Merci, ô Dieu, pour tout ce que nous avons reçu comme enseignement. Notre prière est que tu nous aides à tout faire pour que nos assemblées demeurent, ô Dieu, des Bethel, des lieux qui accueillent ta vie, celle de l'Esprit. Seigneur, que nos églises soient ta maison, lieu où habite ta gloire, lieu où la vérité est prêchée, lieu où les perdus expérimentent le salut, où les malades expérimentent la guérison, où tous ceux qui sont sous l'emprise démoniaque, tous ceux qui ont été déformés par des faux enseignements, reçoivent la vie nouvelle, et sont restaurés et repartent complètement métamorphosés. Seigneur, merci pour tout.